Comment trouver des clients? Comment bien gérer sa facturation? Ces réponses et bien plus sont dans le podcast des indépendants sur BFM Business. Et j'oubliais, quelle banque choisir quand on devient freelance, auto-entrepreneur ou indépendant? Une vraie banque digitale avec des conseillers experts basés en France. Une banque avec des tarifs compétitifs qui proposent toutes les solutions pour développer votre activité. Une banque avec 90% de clients satisfaits. C'est Hello Bank Pro. Hello Bank Pro, partenaire du podcast des indépendants. À tout de suite.
L'atelier numérique.
L'atelier numérique.
François Sorel sur BFM Business.
Bonjour à tous et bienvenue sur BFM Business. C'est parti pour l'atelier numérique comme chaque samedi 16h-18h, votre rendez-vous dédié aux nouvelles technologies et à l'économie numérique. Avec cette semaine tout à l'heure évidemment, Antoine Serre qui sera là pour son crash test. On va retrouver aussi Eric Le Bourlou de la rédaction de Zeronet.com pour jeter un œil sur toute l'actualité high-tech que vous avez pu lire sur le premier site d'actu techno de France 01net. Notre World Tour, French Tech Tour aussi, notre passion selon Sanet, on va parler de la révolution food, la guerre des services en fait de livraison de repas à domicile. Et puis surtout, vous verrez que l'innovation n'arrête pas dans ce domaine de la nourriture. On s'intéressera aussi à la voiture connectée et autonome tout à l'heure. Et puis le cyber gadget d'Antoine, le silicon carnet aussi de Nathalie Doré. Et puis bien sûr, toute l'équipe de l'atelier qui est là. Constance, Aurore et Lila et Nathalie du côté de l'atelier à San Francisco. Mesdames et mesdemoiselles, bonjour.
Bonjour.
Bonjour François.
Et c'est vrai que j'ai l'impression d'être là, le Charlie des drôles de dames. Cela dit, ça me va bien. C'est très cool. On va bien évidemment retrouver aussi tout à l'heure Jean de Chambure qui sera là pour son vue d'Asie. On va parler tout à l'heure avec lui du recyclage des smartphones en Chine qui est en pleine explosion. Mais dans l'immédiat, l'actu vue par toute l'équipe de l'atelier. Et on va commencer par, eh bien, San Francisco. Et vous, Nathalie Doré?
Oui, alors cette semaine, je voulais vous parler d'une action que peuvent faire tous nos auditeurs, puisqu'en fait, c'est déjà live sur Twitter, c'est de transformer ces tweets en opérations de donation. Alors, c'est finalement un nouveau type de crowdfunding qu'on vient de voir apparaître cette semaine aux USA. Alors, la partie crowd, la partie audience est apportée par Twitter, puisque ce sont les 300 millions d'utilisateurs qui peuvent participer. Et la partie funding, la partie financement est apportée par des sponsors, puisque finalement, le tweet que vous faites, c'est une marque, c'est une entreprise qui va faire la donation elle-même. Donc derrière ce nouveau fonctionnement, c'est Credon. Alors Credon avec 2D, c'est la contraction de credit et de donation. Et Credon en fait propose que soient les marques, les entreprises qui deviennent des donateurs en versant $1 à chaque tweet fait par les utilisateurs de Twitter. Alors en fait, Credon, ils sont partis du constat qu'aux États-Unis, eh bien en fait, si on prend les chiffres de 2014, les entreprises représentaient seulement 5% des donations aux œuvres de charité. Et eux, ils pensent que ils peuvent faire évoluer cela avec cette nouvelle opération. Alors, pour les marques qui voudraient se lancer, mais qui ont un budget limité, je les rassure, il est possible de définir un montant maximum. Hein, vous pouvez caper l'action de donation. Et c'est donc un bel exemple de slacktivisme. Alors, je ne sais pas si vous connaissiez ce mot.
Alors là, non, Nathalie, perso, là, on est tous impressionnés. Hein.
Voilà, donc je sors mon vocabulaire. Donc oui. Le slacktivisme, alors finalement, c'est pas très récent. Hein, c'est l'activisme paresseux, et c'est un concept qui remonte aux années 2000, qui consiste à cliquer pour participer à un mouvement collectif. Donc sans trop d'efforts, vous avez juste à cliquer.
Ça va.
Et pour vous donner un autre exemple, le like sur Facebook est aussi une illustration du slacktivisme. Mais là, en fait, on va un cran plus loin que le like, puisque votre tweet donnera donc $1 à une bonne cause. Et la cause qui a suscité pour l'instant le plus d'intérêt, c'est une cause Girls Who Code, donc sur les filles et la tech, avec 170 tweets. Alors ça vient tout juste de démarrer, hein, les montants et les volumes sont vraiment tout petits pour l'instant. Mais c'est définitivement une nouvelle façon de donner, basée sur un modèle à trois où le donateur n'est finalement pas le payeur.
Très bien, merci beaucoup Nathalie. Nathalie qu'on va retrouver dans quelques instants pour son Silicon Carnet. On va parler avec elle de Twitter. Twitter qui a été un petit peu dans la tourmente cette semaine. C'est moins que l'on puisse dire. Aurore Géraud.
Moi, je vais vous parler d'un sujet un petit peu plus léger, comme d'habitude. Je vais vous parler de leggings intelligents. Alors, leggings, c'est cette espèce de petit collant.
Mais que moi, je ne mets pas tous les jours, je vous l'avoue.
C'est peut-être vrai. Pour faire du vélo, pourquoi pas.
Oui, non, même pas.
Alors, on parlait il y a 2 semaines, il me semble, on avait vu pour le Focus Startup Fittle, qui est une application qui permet de créer un avatar de son corps avec 3 photos et avec des mensurations pour en fait trouver des vêtements qui sont pile poil adaptés à ces mensurations. Mmh. Donc, ce legging, c'est le même principe, sauf que c'est un wearable qu'on porte, qu'on met sur soi. On appuie sur un petit bouton et il mesure l'intérieur des cuisses, la longueur des jambes, voilà, etc. Jusqu'à dire exactement quelles sont les mensurations de la personne et qui ensuite, l'application reçoit toutes ces données via Bluetooth et derrière va pouvoir propulser en fait toutes les pantalons qui sont de la même taille exacte que la vôtre depuis les sites de e-commerce.
Ah oui, d'accord.
Voilà.
Pas mal. Bon, on peut être fâché contre le legging qui nous dit qu'on est un peu trop large ou
qu'il n'y a aucun pantalon qui va. Ouais, ça peut être un peu vexant en fait.
Voilà, c'est ça. Comment détruire un legging Bluetooth en 2 secondes?
À 100 dollars en plus.
À 100 dollars. Ça existe déjà ça?
Ça va bientôt sortir, il me semble.
Ah zut. Bon, allez. Constance, et après ce sera Lila.
Bonjour François.
Bonjour.
Alors,
Constance.
Moi je vais vous emmener du coup au Japon, à Tokyo.
Allons-y.
Où une application vient de permettre de ne plus se perdre dans le métro. Parce qu'il faut savoir que là-bas, les stations du coup sont vraiment énormes. Et il y a beaucoup de gens qui n'arrivaient plus à retrouver leur chemin et leur quai.
Des gens qui restaient des années entières.
Voilà, qui ne ressortaient plus.
Aérés dans les stations de métro au Japon. C'est horrible.
Alors en plus, il y a un problème à cause des systèmes de GPS. C'est que souvent, ils ne sont pas assez précis pour se retrouver à l'intérieur du métro. Et en plus, on ne capte pas parfois dans les stations sous terre.
Oui.
Voilà, du coup, pour faire face à ce souci technique, JR East, l'application, a décidé de se servir de la technologie e-beacon. Donc e-beacon, c'est des petites balises qu'on met au plafond et qui permettent de repérer le téléphone de l'utilisateur à 7 mètres près pour lui donner vraiment des informations très précises comme dans 3 mètres, tourner à gauche, dépasser tel magasin et ensuite arriver voilà, sur le quai. Et en plus, voilà, JR East propose une autre fonctionnalité aussi très utile. C'est une fois qu'on a trouvé son quai, de savoir dans quel wagon il y aura le plus de personnes ou le moins de personnes, c'est le plus intéressant, et quelle température il fait aussi dans chaque wagon, histoire voilà, de pas d'éviter les coups de chaud quand on prend le métro là-bas au Japon.
Ah oui, parce voilà. Qu'il y a des wagons qui sont plus frais que d'autres.
Voilà, on peut gagner jusqu'à 2-3 degrés dans les wagons assez peuplés finalement. Ouais. La chaleur humaine...
Selon la population,
j'imagine. Selon la population.
Si vous avez déjà vu ces vidéos dans les métros qui représentent les métros japonais où vous avez carrément des gens qui sont dédiés
oui.
à pousser pousser les passagers.
Comme des trompeaux en fait.
Exactement, ouais, un peu comme des Lego.
Oui, ouais, c'est ça. Voilà, on rentre au centimètre carré.
C'est gentil des Lego, hein, moi j'aurais dit.
Du bétail.
Très bien. Et tous les téléphones sont compatibles avec ce système, Constance ?
Tout ce qui est Android et iOS.
iOS, voilà. D'accord. Donc avec cette technologie iBeacon.
Voilà.
Lila Megraoua.
Après le Japon, je vous emmène en Italie, où j'étais il y a quelques semaines pour découvrir l'expo de Milan, l'expo universelle.
On en avait parlé d'ailleurs dans l'atelier.
Tout à fait, tout à fait. On avait eu le plaisir d'avoir le monsieur Smart City de la ville de Milan. On a également le géant alimentaire italien Coop qui a profité de l'exposition universelle pour proposer sa version du supermarché du futur. Alors ce supermarché du futur, imaginez-vous un espace d'à peu près 2000 mètres carrés où vous avez des rayonnages plus gracieux les uns que les autres, surmontés en fait de miroirs qui font office d'écran. Donc en fait, il s'agit d'écrans connectés. Les rayonnages sont surconnectés, sont bardés de capteurs. Et en fait, le principe, c'est que lorsque vous pointez votre doigt vers, imaginons une
bouteille. Plat de pâtes.
Voilà, exactement, un plat de pâtes. Là, sur l'écran, vous allez voir la provenance des pâtes, la composition, le prix au kilo, valeur calorique, avec quoi ça peut se marier. Donc vraiment, cet espace est pensé pour accentuer. Oui.
Donner de l'information en plus sur un produit qu'on pointe du doigt, en fait.
Tout à fait. Alors, à la fois, vous pouvez soit le pointer du doigt, soit dès lors que vous retirez le produit, vous avez d'autres informations qui sont données. Il y avait également des robots. Le robot Yumi, qui, à la fois, j'ai eu l'impression, en fait, d'assister un peu à un ballet de robots, de bras robotisés, qui prenait un peu à l'envi fruits et légumes, et qui vous composait des smoothies.
Ah oui.
Voilà.
D'accord.
Donc, c'était un vrai supermarché, en fait, sur l'expo, sur le site de l'expo universelle. Ce qui est pas mal, c'est que Coop a profité pour expérimenter réellement. C'était pas simplement une exposition, c'était également un vrai test.
Pour voir s'il peut pas peut-être multiplier ce genre de magasin.
Tout à fait. Et à la fois, le type de données auxquelles ils avaient accès, ils étaient capables de dire selon la surface, selon l'animation, selon les secteurs, le nombre de ventes, voilà.
Intéressant.
Le supermarché du futur italien.
Oui, c'est vrai que les coupes là-bas, il y en a partout, hein, en Italie. Aurore, une petite news.
Oui, moi je vais vous parler d'un scanner pour savoir si nous sommes intelligents.
Bon, je crois que c'était un scanner pour savoir si on avait grossi comme notre legging.
Non. Alors, pour savoir plus particulièrement...
Tout autant vexé avec votre scanner.
C'est vrai, parce que si on vous dit que vous n'êtes pas intelligent après avoir...
après avoir essayé le legging qui va pas, c'est bon là. Hein.
Oui, c'est le Daily Mail alors qui d'ailleurs posait le problème de est-ce que ça va pas être dans tous les entretiens d'embauche, hein. Est-ce qu'on va pas scanner quelqu'un pour dire vous
bougez pas avant qu'on parle, on va scanner votre cerveau pour voir ce qu'il y a.
Alors en fait, ce scanner vérifie si différentes en fait connexions au niveau du cerveau pour pouvoir déduire si ces connexions sont à même d'offrir aux personnes qui portent ce cerveau, la faculté d'être extrêmement logique ou de résoudre des situations problématiques. Alors, c'est pas un scanner, c'est 6 scanners quand même.
D'accord.
6 scanners, ça regarde 268 régions du cerveau pour voir si les connexions sont faites. Et ça vient en fait de l'université de Yale. Et leur programme s'appelle le Human Connectome Project.
Oh là là, vous imaginez demain l'entretien d'embauche?
Bonjour l'angoisse, quoi.
Bonjour
surtout,
l'angoisse.
Êtes-vous intelligent?
Ouais. Désolé, vous êtes bête, donc je ne peux pas vous embaucher.
Dommage.
Bon, bah écoutez, bonne journée, hein, au revoir. Ah là là, bon, bah merci beaucoup, Aurore Géraud. Et tout de suite, c'est notre rendez-vous Vue d'Asie avec Jean de Chambure.
L'atelier numérique sur BFM Business.
Bonjour Jean.
Bonjour François.
Alors, cette semaine, Jean, on va parler d'un sujet très important. Il s'agit du recyclage des smartphones en Chine. Où en est-on, tiens, sur ce sujet?
Eh bien, écoutez, ça progresse. Ça progresse. Alors, évidemment, c'est très symbolique, le téléphone. C'est symbolique un peu de la conscience écologique qui est de plus en plus forte chez les Chinois, puisque c'est quand même un objet qui est petit, qu'on garde chez soi lorsqu'on souhaite de le changer, et qui du coup peut être un petit peu oublié. D'ailleurs, les Français aussi parfois oublient un petit peu de recycler leur téléphone. Pour vous donner quelques chiffres sur le sujet, c'est très impressionnant. Vous savez que la Chine, c'est le premier marché mondial des téléphones. Il y a 1,14 milliard d'utilisateurs, et il y a chaque année, on estime à peu près à chaque année, 400 millions de téléphones qui sont mis pour l'instant au rebut, en tout cas qui sont mis de côté. Donc c'est énorme, hein. 400 millions chaque année de téléphones mis de côté. Vous savez aussi qu'un téléphone, eh bien, généralement, lorsqu'on le met à l'écart, lorsqu'on le laisse même hors de chez soi, il y a des risques évidemment très forts, hein, puisqu'il y a à l'intérieur, il y a du plomb, il y a du mercure, il y a du chrome, que également la batterie de votre téléphone, en fait, c'est l'équivalent, ça peut contaminer jusqu'à 60 000 litres d'eau, c'est-à-dire l'équivalent de tout ce qu'on a besoin de boire dans une vie.
Hein, oui.
Donc,
oui.
Il faut faire extrêmement attention à tout ça. Mais que d'un autre côté, eh bien, c'est aussi une vertu économique, et c'est pour ça que ça intéresse d'ailleurs des startups chinoises dont je vais vous parler. C'est que dans le recyclage, il y a bien sûr un certain nombre de pièces qui peuvent être réutilisées pour d'autres téléphones, mais il y a aussi des matières premières assez importantes. Hein. Il y a de l'or, il y a du cuivre, et puis il y a aussi bien sûr du plastique qui peut être recyclés. Mmh. Alors les deux startups dont je voulais vous parler aujourd'hui, il y en a une qui est importante, qui est très grande, hein, c'est le numéro 2 en fait, chinois, dont on entend un peu moins parler qu'Alibaba, mais qui est très important, qui s'appelle Didi, Didi.com, hein, c'est le second site internet chinois en termes de e-commerce. Mmh. Et bien il a lancé une chaîne dédiée pour le recyclage en fait électronique dans sa globalité, mais bien sûr avec un très grand focus sur les téléphones. Et l'autre site, là, François, vous allez me pardonner mon chinois qui est encore un peu approximatif, comme vous savez, mais je ne résiste pas au plaisir, évidemment, de vous donner ce nom en chinois, donc qui est Ai Huoxi Ru. Donc ça veut dire j'aime le recyclage, ça peut-être pas encore dire j'aime le chinois, parce que là vous avez compris que Ai Huoxi Ru, c'est peut-être pas parfait, mais en tout cas c'est super, c'est un site qui a un modèle O2O, c'est-à-dire qu'en fait ils ont 400 centres de services répartis partout en Chine, et eh bien ces centres de services sont connectés online, ils sont à Pékin, ils sont à Shanghai, ils sont à Hangzhou, ils sont à Shenzhen, et ils permettent aux utilisateurs, en se connectant donc sur le fameux site, d'aller depuis des centres de services amener un livreur qui vient récupérer même le téléphone et après le mettre donc en lieu sûr pour être recyclé. Vous voyez donc que ça bouge pas à pas sur cette chair fine digitale qui a besoin de se recycler quand même de temps en temps.
Et concernant votre accent chinois, mon cher Jean, je suis convaincu que vous progressez de jour en jour. Ça, c'est bien.
Ah oui, sir. Quand on part de tout bas, c'est le grand principe. Hein. On a une bonne année pour bien progresser.
Très bien. Merci beaucoup, Jean, pour ce Vue d'Asie. Jean de Chambure, vous le savez, chaque samedi dans l'atelier numérique depuis Shanghai. Merci beaucoup. Et on revient dans un instant pour la suite de cet atelier numérique avec à suivre donc notre Silicon Carnet avec Nathalie Doré qui va nous parler de Twitter. Vous savez que Twitter est en train de passer, on va dire, un mauvais moment hein, dans sa carrière. Et puis après notre cybergadget, notre focus startup et puis notre enquête de l'atelier, on va parler du véhicule autonome à la française avec nos invités. À tout de suite.
L'atelier numérique.
L'atelier numérique.
François Sorel sur BFM Business.
C'est l'atelier numérique sur BFM Business. Dans un instant, les gadgets d'Antoine, comme chaque samedi, bien sûr. Je sais que vous êtes nombreux à attendre ce rendez-vous. Mais auparavant, retour donc à San Francisco, à l'atelier US, avec toujours Nathalie Doré qui est avec nous. Nathalie, on va parler de Twitter. C'est vrai que Twitter fait beaucoup parler de lui en ce moment.
Et oui, François. Alors, la semaine dernière, on en parlait pour un nouveau service. Vous savez, le fameux oui. Moment. Mmh. Eh bien, cette semaine, c'est une news pas très positive qui vient de sortir. Twitter a annoncé le licenciement de 8% de ses effectifs. Alors, c'est dans le cadre d'un plan de restructuration, ce qui représente quand même 336 emplois. Alors, c'est une triste annonce de plus pour le réseau social de microblogging, qui vit, il faut le dire, une année 2015 difficile, mais qui, d'un autre côté, réagit et lance plusieurs initiatives pour tenter d'élargir son audience.
Mmh. Et justement, quelles sont ces initiatives, Nathalie ?
Alors déjà, la première, et elle est de taille, c'est que Twitter va devoir améliorer ses résultats financiers, puisque ses licenciements et aussi changement de dirigeant hein, qu'on a connu ces derniers mois, et la toute dernière news date d'il y a quelques jours, c'est la nomination du nouveau président, vous savez, Omid Kordestani, qui est un transfuge de Google. Eh bien, ces licenciements et ces changements de dirigeant sont la conséquence des résultats financiers décevants. Alors l'année dernière, Twitter a réalisé un chiffre d'affaires d'$1,4 milliard. C'est pas mal, hein, et d'ailleurs c'est en croissance par rapport à l'année d'avant. Mais les analystes ont donné un peu mieux faire à la société introduite en bourse fin 2013. Alors, il est vrai que si on compare par exemple avec Facebook, eh bien Twitter fait 10 fois moins de chiffre d'affaires alors qu'ils ont 5 fois moins d'utilisateurs actifs. Donc par comparaison, on peut dire que Twitter monétise 2 fois moins bien ses données.
Oui, mais Twitter, c'est quand même moins grand public que Facebook. Hein, on s'en rend compte tous les jours, Nathalie.
Oui, c'est vrai. Alors, pourtant, ils ont 10 ans. Enfin, hein, ils vont fêter leur 10 ans l'année prochaine. Mais ils restent une cible assez limitée. Alors, il faut quand même garder en tête que c'est le concept même de Twitter. Hein, le fait d'accéder à du contenu en temps réel et en moins de 140 caractères, c'est un positionnement idéal pour les breaking news, mais pas forcément pour des médias de masse. Alors, cela dit, Twitter l'a bien compris et est en train de se réinventer et d'élargir justement son positionnement. D'abord sur le format, la vidéo, et plus particulièrement le live streaming. En mars dernier, Twitter a racheté Periscope. Mm-hmm. Vous savez, cette plateforme qui vous permet de regarder des vidéos qu'une autre personne filme en temps réel. Eh bien, ça marche. Cet été, Periscope a atteint les 10 millions d'utilisateurs en à peine 4 mois. Donc, c'est quand même prometteur. Ensuite, sur son contenu, Twitter vient de lancer Moment, donc cette nouvelle fonctionnalité qui peut se résumer à voir facilement tout ce qui se passe dans le monde, même si on ne suit personne. Donc cette nouveauté change, selon moi, vraiment le positionnement Twitter, car on passe du gazouillis de personne à personne à un positionnement de média plus large. Et au-delà du contenu média, Twitter avance de plus en plus vers une autre tendance, le social commerce. Et sa dernière tentative, on vous en avait parlé d'ailleurs il y a quelques semaines dans l'atelier numérique, c'est le partenariat avec Stripe pour proposer une expérience d'achat simplifiée en trois clics.
Alors c'est vrai, hein, et sur le format, on a pu remarquer que Twitter avait fait sauter la limite des 140 caractères sur les messages privés. Messages privés d'ailleurs qu'on peut envoyer à tout le monde, même si on ne se follow pas.
Oui, alors c'est vrai que Twitter a remis en cause, on peut le dire, hein, son dogme des 140 caractères. Et c'est possible de le faire pour les messages privés. Et ils l'ont surtout fait pour les marques qui utilisent Twitter comme un outil de relation client et qui se plaignaient en fait de ne pas pouvoir avoir beaucoup d'informations remontées sur les clients du fait de cette limitation aux 140 caractères. Alors, en conclusion, je dirais que Twitter vit donc une année difficile, mais la force de sa marque dans un monde en quête de transparence, et là-dessus, ils sont très bons en termes de médias directs, et sa capacité à pivoter font que nous n'avons pas de doute sur le fait que Twitter a quand même encore de beaux jours devant lui.
Exactement, c'est une belle société. Puis quand on a goûté à Twitter, après on devient vite accro. Hein. Merci beaucoup,
c'est
Nathalie.
Vrai.
Nathalie Doré, donc, de l'atelier US. Et on enchaîne tout de suite avec les cybergadgets d'Antoine.
L'atelier numérique sur BFM Business.
Donc le cybergadget avec cette pilule un peu bizarre.
Oui, en fait, c'est une pilule contre le mal du virtuel.
Oui, oui. J'attends la suite.
Ben oui. Ben, figurez-vous que donc c'est un médicament spécial qui a été fabriqué par un lab créatif qui s'appelle Party New York, et donc ça s'appelle le Virmo, et c'est la première pilule contre les maux sensoriels causés par le virtuel. Il faut avaler 2 capsules 30 minutes avant vos expériences de 3D, vos expériences virtuelles.
Ouais.
Donc c'est surtout pour la réalité, c'est vraiment pour
tous ceux qui mettent des masques,
des casques,
des choses comme ça, etc.
C'est pas
oui, voilà. Si je vais sur le web,
j'ai pas besoin de prendre deux pilules de Virmo avant d'aller surfer sur le web, surtout si vous y allez une heure par jour, quoi.
Oui, voilà c'est bon. Ça.
Donc,
en revanche, je veux me transformer dans
le monde de Darth Vador.
Voilà, dans ces mondes virtuels, je prends cette pilule.
Oui. Et donc,
en fait, c'est un mer calme pour le masque.
Exactement.
C'est
alors, il est clair que ça peut faire sourire. En réalité, la réalité virtuelle peut causer des symptômes tels que maux de tête, vertiges, nausées, vomissements.
Bien sûr, évidemment.
C'est tout à fait compliqué. Et donc le mal du virtuel s'apparente en quelque sorte au mal des transports, alors même que dans les transports, il y a un déplacement physique, alors que là, il n'y a aucun déplacement physique. Enfin si, il y a un petit déplacement physique.
Mais pas énorme.
Mais qui est quand même pas énorme.
Ouais.
Et c'est évidemment la perception de mouvement qui crée le problème. Et comme ça repose sur une perception et pas sur une réalité, les médicaments habituels sont inefficaces. C'est-à-dire que vous pouvez avoir le mal de mer sous votre casque à cause du mouvement que vous avez dans votre jeu virtuel. Mais comme c'est un mouvement qui n'est pas un mouvement réel, les médicaments qui soignent le mal de mer sont cette fois inefficaces.
Ah oui.
D'accord. Donc c'est ça qui est très intéressant. Donc du coup, les spécialistes de Virmo pensent que c'est une réponse efficace qui permet d'ailleurs de développer du coup les expériences immersives, hein, parce que du point de vue des professionnels, des créateurs d'expériences immersives,
oui, pour eux c'est un vrai problème. Au bout d'un moment, ils ne peuvent plus jouer.
C'est absolument un vrai problème.
Ils testaient leur jeu.
Donc ça y est, l'organisme a été enregistré par l'autorité américaine du médicament. Il a été validé et il est pour l'instant interdit au moins de 12 ans, pas en raison de ses dangers pour l'organisme, mais parce que justement le législateur américain a considéré qu'il n'était pas raisonnable d'encourager l'usage de la réalité virtuelle en dessous de cet âge.
Incroyable. Mais cela dit, aujourd'hui les masques font de tels progrès techniques que bientôt on n'aura plus cette sensation de nausée. J'en ai testé un à l'IFA qui fait qu'il y a plus de temps de latence. C'est ça en fait qui donne cette sensation de nausée et techniquement on arrive à pallier à ce problème technique. Merci beaucoup Antoine. On revient dans un instant. La suite de l'atelier dans une minute. À tout de suite.
L'atelier numérique.
L'atelier numérique.
François Sorel sur BFM Business.
C'est l'atelier numérique sur BFM Business. Notre enquête de l'atelier dans quelques instants. Avec Lila Megrawa et nos invités, on va s'intéresser aux véhicules autonomes à la française et vous verrez qu'on est vraiment en pointe dans ce domaine. Pour tout ce qui est véhicules autonomes et véhicules connectés. Mais dans l'immédiat, c'est notre focus start-up. Avec vous, Aurore Géraud, et en compagnie de notre invité, on va parler d'un truc incroyable, l'impression d'os. L'impression
3D dans le domaine médical. Hein. Et donc avec nous, nous avons aujourd'hui Didier Nimal, qui est PDG fondateur d'Océomatrix. Didier, bonjour.
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 Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de votre entreprise, s'il vous plaît?
Oui, bien volontiers. Océomatrix a développé un procédé révolutionnaire d'impression 3D qui permet de fabriquer de l'os sur mesure. Les pertes osseuses sont un véritable problème de santé publique, hein. Après un trauma, une tumeur, au-delà de quelques millimètres, eh bien, l'os ne va pas se régénérer. D'accord. Et donc, il faut bien le compenser. Alors, comment? Jusqu'à présent, en mutilant une zone saine, en prenant un greffon sur le patient dans une zone anatomique, comme le bassin, par exemple, ou bien en bouchant le trou, si je puis dire, avec des matériaux qui sont tolérés par l'organisme, des
métaux. C'est-à-dire qu'on rajoutait quelque chose, en fait, dans cet os, c'est ça?
On rajoutait un matériau qui est donc un métal, comme du titane ou des polymères, et qui vont boucher le trou, mais qui vont prendre la place de l'os.
Et donc là, c'est là que l'impression 3D arrive, en fait.
Tout à fait. Océomatrix, donc, a inventé ce procédé qui est un procédé breveté et unique au monde, de fabrication directe d'os de synthèse qui a la même composition que l'os minéral.
Alors attendez, comment ça marche en fait? Par exemple, c'est je sais pas moi, je ne le souhaite pas à Aurore, on va prendre un exemple, la pauvre. Mais elle se fait une belle fracture. Vous voyez, elle se fait un truc vraiment grave, elle se casse un bout d'os, etc. Donc il faut faire
c'est
appel
pas très
à votre...
sympa.
Non mais c'est évidemment Aurore, c'est un scénario, c'est le scénario du pire. Comment allez-vous justement identifier son problème, voir si effectivement vous pouvez imprimer son petit bout d'os et si c'est faisable?
Alors, bon, on va faire passer un scanner à Aurore pour voir la topographie de la perte osseuse.
Oui.
Et à partir de là, on va concevoir un implant qui va anatomiquement s'adapter à cette perte osseuse. Et le procédé de 3D va permettre de produire ces implants donc qui peuvent être très compliqués et qui sont poreux, pour pouvoir guider les cellules osseuses et les vaisseaux à l'intérieur même de l'implant. En fait, cet implant, on peut le considérer comme un échafaudage qui guide la cicatrisation osseuse.
D'accord. Hein? Et il faut combien de temps pour fabriquer un bout d'os comme ça? Enfin, j'imagine que ça dépend de la taille
volume.
Et du volume.
Un volet crânien, c'est de l'ordre de 3 heures. Donc, vous voyez, on va relativement vite. Alors, Océomatrix a été lauréate au concours mondial de l'innovation l'année dernière. Cette année également, en catégorie médecine personnalisée, l'intérêt de l'innovation, eh bien, c'est évident pour le patient puisque on connaît le problème des greffons et des douleurs en rapport avec ces greffons, mais pour le chirurgien, ça permet de diminuer le risque chirurgical et on diminue par deux la durée d'intervention ainsi que la durée d'hospitalisation.
Et le coût?
Alors, le coût est à peu près équivalent dans la mesure où le patient, auparavant, devait rester plus longtemps à l'hôpital. On devait gérer des complications opératoires. L'intérêt également de la technique, c'est d'avoir une meilleure traçabilité des implants qui sont produits.
Très bien. Eh bien, écoutez, merci alors, beaucoup. C'est génial.
Océomatrix fait une levée de fonds actuellement.
Oui. Ah, très bien. Il faut signaler.
Donc, nous sommes sur la plateforme Anaxago. Et donc, nous levons des fonds pour... mettre en place le pilote industriel de fabrication de ces implants. Donc,
en espérant que vous fassiez de vieux os, hein, ça au moins, c'est tout le mal qu'on peut vous souhaiter. Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
D'Inimal. Voilà, merci Aurore. Et après ce focus startup, place maintenant notre enquête de l'atelier sur BFM Business. Avec Lila et nos invités, on va parler d'un sujet de plus en plus médiatisé, mais c'est vrai que ça nous fait tous rêver, hein. On va parler de voitures autonomes et de voitures connectées maintenant.
Mais oui, tout à fait, parce que la semaine dernière s'est déroulé à Bordeaux le congrès mondial ITS qui était dédié à la mobilité intelligente. Et c'est vrai que le véhicule autonome était un peu la star de ce congrès. Alors cette semaine, on va mettre à l'honneur deux des initiatives qui ont été présentées, à savoir la voiture Link & Go d'Aka Technologies et la navette Navia de Navia.
Voilà. Qu'il n'y a pas que la Google Car, on entend énormément parler de cette Google
Car. La voiture autonome
existe en France. Voilà, et on va la découvrir avec nos invités. Messieurs, bonjour.
Bonjour.
Bonjour. Alors, Christophe Sapé, bonjour. Vous êtes PDG de Navia. Et on reçoit également Mathieu Balescu. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes secrétaire général d'Aka Technologies. Alors, dites-nous un peu si aujourd'hui, donc, on parle de véhicules autonomes. À quel degré ces véhicules sont autonomes aujourd'hui?
On va choisir bon,
Christophe Sapet.
Bon. Eh bien, écoutez, nous, on a un peu une spécificité sur ce marché, puisqu'on est la première société à mettre sur le marché un véhicule complètement autonome, donc 100% autonome, sans conducteur. Et en cela, on se rapproche un peu, effectivement, de la stratégie qui a été mise en place par Google, qui a décidé de faire un peu table rase d'un véhicule classique avec un volant et des pédales, et donc de passer directement à une fonction 100% autonome. Et nous, nous avons conçu un véhicule qui est un véhicule destiné au transport de personnes, donc un peu un minibus, une navette, et qui permet de transporter une quinzaine de passagers, mais véritablement sans conducteur.
D'accord, sans intervention humaine.
Tout à fait, c'est un véhicule qui se déplace tout seul sans infrastructure, c'est-à-dire qu'on lui apprend dans un premier temps le trajet qu'il va devoir suivre, et à partir de là, il va se déplacer tout seul sans conducteur.
Donc il faut qu'il ait... voilà, là, il y a l'apprentissage du trajet qu'il va faire plusieurs fois par jour, en fait.
Alors, les technologies qui sont mises en place sont des technologies où on fait ce qu'on appelle du mapping, c'est-à-dire on fait une reconnaissance du trajet, on fait un enregistrement de tout l'espace en trois dimensions dans laquelle le véhicule va se mouvoir, mais c'est exactement le même type de technologie qu'utilise la Google Car. C'est-à-dire que la Google Car, ils ont fait un mapping, mais sur toutes les rues de Mountain View où se place Google, et on utilise des technologies qui sont très voisines.
D'accord. Est-ce qu'on peut imaginer demain pouvoir faire un mapping de toutes les rues, de toutes les routes d'un pays, d'un continent ? C'est possible ou pas ?
C'est qu'une question de temps, de moyens qu'on met en face. Où on a tous l'habitude de voir des Google Cars, mais pas autonomes dans les rues de tous les pays, hein, que ce soit en France ou n'importe où, puisque effectivement ils font ce qu'on appelle le mapping, la reconnaissance, ils font Street View. Donc c'est uniquement une question de temps et de moyens.
Mais c'est faisable techniquement.
C'est techniquement faisable.
D'accord.
Mathieu Balescu, chez AK Technologies, vous avez développé la voiture Link & Go.
Oui,
pareil, vous pariez sur le tout autonome ?
Oui, on parie sur le tout autonome, mais j'aimerais bien faire un petit retour sur la naissance de cette voiture. Elle est née bien avant la Google Car. Depuis 2008, finalement, notre centre de recherche, qui compte près de 500 personnes, a planché sur d'abord un véhicule autonome, puis ensuite la deuxième génération, donc qui est la Link & City qu'on a montré au salon de Bordeaux, qui est plus un véhicule autonome et connecté. Et aujourd'hui, on commence à travailler sur des véhicules intelligents, autonomes et décarbonés. Donc nous, on est plutôt sur un modèle qui est à la croisée de plusieurs secteurs, puisqu'il faut savoir que notre société travaille dans le secteur de l'aéronautique, du ferroviaire et également de l'automobile. Et on a voulu faire de la Link & Go une sorte de vitrine technologique qui permet de croiser plusieurs technologies spécifiques à certains secteurs. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'on tend vers un véhicule tout autonome, mais on a encore des obstacles à lever.
Alors, ces véhicules autonomes existent, ils fonctionnent, ils marchent. Est-ce qu'à quand la mise en route en France, est-ce qu'il n'existe pas des contraintes réglementaires ? Est-ce que la législation est là ? Est-ce qu'on a les routes aussi pour les accueillir ?
Est-ce que surtout les conducteurs sont prêts à laisser tomber leur volant pour se laisser conduire ?
Il y a d'abord la Convention de Vienne, on peut le dire, qui nous oblige, qui a été signée en 1968, qui nous oblige à avoir à l'intérieur du véhicule une personne au moins à côté qui puisse être là pour assurer la sécurité en cas de problème. Donc il y a les conventions internationales qui sont un premier obstacle. Un deuxième obstacle, c'est bien sûr, est-ce que les gens sont prêts à être véhiculé dans un véhicule autonome. Ça, c'est vraiment un point essentiel. Et je pense qu'avec la Navia Arma, on va parvenir progressivement à lever ces obstacles psychologiques. Par exemple, si on prend le métro aujourd'hui, il y a certaines rames qui sont automatisées, il n'y a pas de conducteur, mais progressivement, les gens se sont fait à ces nouveaux modes de conduite autonome sans conducteur, et aujourd'hui on pense que les gens sont prêts, mais il va falloir grâce justement à des initiatives comme la navette Navia, on va parvenir à lever ces
obstacles.
Effectivement, si vous voulez, il y a cette réglementation qui nous empêche un peu d'aller sur la route pour le moment, mais nous on a choisi effectivement de faire un véhicule qui se déplace sur ce qu'on appelle les sites fermés, les sites propres, donc des sites de type site industriel, site nucléaire, des parcs d'attractions, partout où on peut s'affranchir de la réglementation routière, parce que ce sont des sites privés.
Sites privés, voilà. Dans les sites privés, on fait ce qu'on veut.
Donc nous, c'est pour ça qu'on a décidé décidé de faire ce véhicule pour ce type d'utilisation parce qu'on peut les commercialiser tout de suite. Donc le véhicule, nous, on le vend depuis la semaine dernière puisqu'on l'a présenté à l'ITS Bordeaux. Donc ça, c'est une caractéristique importante. C'est le seul véhicule qu'on peut acheter aujourd'hui dans le monde qui soit 100% autonome pour circuler sur un site. Et puis, quant à votre deuxième question concernant l'acceptation du véhicule par les utilisateurs, nous, on est frappé puisqu'on on transporte de vraies personnes depuis assez longtemps puisqu'on a fait beaucoup d'expérimentations et encore à l'ITS Bordeaux, on a fait quand même circuler notre navette sur route ouverte. Donc technologiquement, nous sommes prêts. Les gens, si vous voulez, ils montent à bord. Ils ont une espèce de petite appréhension que ça dure 2-3 minutes. Et puis au bout de 2-3 minutes, ils regardent même plus la route. Ils font confiance à la technologie. Alors c'est à nous de maîtriser cette technologie, de la rendre sûre, absolument sûre. Donc en utilisant des phénomènes, ce qu'on appelle de redondance, de sécurité, d'avoir plusieurs types de capteurs, d'avoir des technologies qui permettent de transporter toutes ces personnes en toute sécurité.
Alors je crois que votre système est autonome, mais malgré tout, il y a des opérateurs qui surveillent en fait la flotte. C'est-à-dire que par exemple, je sais pas moi, il y a un accident sur un parcours, etc. Comment on va réagir le véhicule qui n'a pas de conducteur à l'intérieur? Il y a quelqu'un qui est connecté à tous ces véhicules et qui est un peu un opérateur, c'est ça?
Alors effectivement, on a un système de supervision de nos véhicules, c'est-à-dire qu'en fait, il y a quand même des éléments, je dirais, qui peuvent se produire dans l'exploitation des véhicules qui sont un peu impondérables, hein, si effectivement il y a un accident qui bloque la route ou un certain nombre de choses. Et donc à ce moment-là, la Navia Arma va appeler directement le centre de supervision en disant j'ai un problème sur le circuit. Et à partir de là, l'opérateur va se connecter à la Navia et va lui donner une autorisation spécifique. Il ne s'agit pas de piloter à distance le véhicule, ça serait trop dangereux. Mais là, c'est plus une possibilité complémentaire de lui donner, par exemple, dans un premier temps, tu es autorisé à franchir une ligne blanche momentanément pour dépasser un véhicule qui est en panne sur le bord
de la
route.
Parce que ça, il ne peut pas le faire tout seul.
Non. Alors, c'est
Et qu'est-ce qu'il peut faire tout seul?
Il peut se déplacer complètement, il fait la détection d'obstacles, il y a un piéton, des véhicules, il adapte. Là, on a eu, par exemple, on était sur route ouverte, on avait, par exemple, des conditions de circulation qui étaient assez difficiles, hein, puisque on s'aperçoit que finalement, les autres conducteurs ne respectent pas beaucoup le code de la route. Et donc, du coup, on avait des gens qui ont fait des queues de poisson, il faut effectivement que nos navettes se comportent de manière tout à fait intelligente dans ce circuit. Le seul bémol qu'on a aujourd'hui, c'est que on a des technologies qui nous permettent théoriquement d'être plus prudents, si vous voulez, que ce qu'on pourrait l'être. Et il y a eu quelques articles sur les Google ou à la Google Car auxquels on reprochait d'être un peu trop prudente. Parce que quand vous êtes dans le trafic, vous arrivez à un carrefour, très souvent, finalement, il faut un peu s'engager, un peu forcer le passage. Et ça, pour le moment, nos véhicules, au contraire, on prend des mesures de sécurité, donc ils ne font pas ça. Mais on va y arriver et on les rendra de plus en plus intelligents pour simuler de manière de plus en plus proche un conducteur réel.
Alors s'il se passe quelque chose, s'il y a un accident, est-ce qu'il n'y a pas la question de la responsabilité qui va émerger, Mathieu Valescu?
Ça c'est un débat très important parce que aujourd'hui la question de la responsabilité elle est centrale. Est-ce que la responsabilité va porter sur le constructeur, sur l'éditeur de logiciels, sur l'utilisateur, sur les constructeurs des infrastructures? Donc ça, c'est vraiment une question qui est phare. Progressivement, le débat commence à s'ouvrir et on va vers un principe de responsabilité sans faute ou de co-responsabilité. L'avantage d'avoir des données stockées dans le big data, c'est qu'on saura exactement comment le véhicule s'est comporté, qui a été à l'origine d'un accident. Et bien sûr, il va falloir mettre autour de la table à la fois les responsables politiques, les assureurs, les éditeurs de logiciels, tous ces gens qui doivent finalement se parler pour savoir quel système on va mettre en place. Mais il faut savoir qu'aujourd'hui, à l'international, aux États-Unis, on a déjà trouvé des solutions. Volvo, il y a quelques jours, a décidé de se porter responsable de tous les accidents qui pourraient avoir lieu sur les routes. Donc finalement, chacun a sa part de responsabilité pour lever tous ces verrous.
Quand est-ce qu'elle sera là, cette voiture autonome, on va dire, pour le grand public, qui nous emmènera d'un point A à un point B, qui ira se garer toute seule? C'est encore de la science-fiction, ça, ou on s'en rapproche?
Alors, technologiquement, nous, on considère qu'on est quasiment déjà capable de le faire. C'est-à-dire que notre horizon de temps technologique, entre guillemets, il est plutôt de l'ordre de 2 années. Par contre, effectivement, au niveau de la réglementation, ça va certainement prendre un peu plus de temps. Aujourd'hui, conceptuellement, d'appeler un véhicule qui va arriver tout seul, de l'envoyer se garer tout seul, ou de le faire circuler tout seul, nous, ça nous semble possible aujourd'hui, dans la très grande majorité des cas. Maintenant, je le disais lors de la présentation de la navette Arma, la semaine dernière, je disais quand on saura vraiment faire un véhicule autonome, c'est quand on aura notre véhicule autonome qui va traverser la place de l'Étoile toute seule.
Bonjour.
Et là, je crois que c'est un beau challenge. Ouais. Mais paradoxalement, je pense qu'à horizon de 2 ans, 3 ans maximum, je pense qu'on pourra le faire. Donc c'est vraiment un enjeu.
Ça serait amusant de mettre un peu votre minibus sur la place de l'Étoile pour voir ce qui se passe.
Ben oui, mais je crois que ça pourrait déjà pas trop mal se passer.
Alors pour tous ceux qui ne connaîtraient pas cette place, qui nous écoutent en dehors de Paris, c'est un cauchemar en fait. Voilà, on ne sait pas de qui a la priorité. Tout le monde se retrouve en plein milieu de cet énorme rond-point en fait.
Ce qui est assez intéressant, c'est que au fur et à mesure que les technologies progressent, finalement, le temps d'entrée des véhicules dans le système se rétrécit. Il y a 2 ou 3 ans, on pensait qu'on serait à un horizon 2030-2035. Maintenant, on est plus sur un horizon 2025-2030, c'est-à-dire une sorte de voiture autonome intelligente qui interagit avec son environnement. Donc, on peut imaginer que d'ici 6 mois, 1 an, le progrès avançant, on soit plus sur un horizon 2020-2025. Il faut savoir qu'aujourd'hui, Tokyo a décidé de lancer à partir de mars 2016 son programme de taxi autonome avec un objectif en 2020 lors des Jeux Olympiques de pouvoir transporter tous les sportifs en taxi autonome. Donc on sent qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer, un vrai bouleversement de la société.
C'est clair. Avec tout ce que cela comporte comme bouleversement hein, au niveau ne serait-ce qu'économique, hein, parce que voilà, s'il y a des taxis autonomes, ça veut dire qu'il n'y a plus de taxis. Mais bon, on n'en y est pas encore. Merci beaucoup à tous les deux.
Merci
pour toutes ces
précisions.
Merci.
Et on revient dans un instant, Lila, on va poursuivre cet atelier numérique avec... on va rester dans le domaine de la voiture connectée, puisqu'on va s'intéresser à un autre acteur de la voiture connectée, c'est Bosch. Ça sera notre web stratégie. Et puis juste après, on va parler de nourriture et de la guerre des services de livraison à domicile. À tout de suite.
L'atelier numérique.
L'atelier numérique.
François Sorel sur BFM Business.
L'atelier numérique sur BFM Business, on va essayer de vous mettre l'eau à la bouche dans quelques minutes puisqu'on va parler de la révolution food. Évoquer la guerre des services de livraison de repas à domicile qui fait rage maintenant avec l'arrivée d'Uber Eats qui vient d'arriver sur ce marché. Ce sera dans quelques instants, mais auparavant notre web stratégie, on va poursuivre dans le véhicule autonome une autre vision de la voiture connectée maintenant par Bosch avec votre invité Lila Megraoua.
L'atelier numérique sur BFM Business, la web stratégie.
Oui François, alors cette semaine on va poursuivre un peu notre feuilleton autour de la voiture connectée. J'ai le plaisir d'avoir à mes côtés Franck Cazenave, bonjour.
Bonjour.
Alors Franck Cazenave, vous êtes directeur marketing et innovation chez Bosch France. Alors expliquez-nous un peu quand et comment vous avez entamé quelque part votre transformation, votre mutation numérique.
En fait, je pense que la transformation numérique chez Bosch, elle existe depuis longtemps. Nous sommes un des acteurs des MEMS, par exemple. C'est un accéléromètre que vous avez dans votre smartphone. Un smartphone sur deux a un accéléromètre Bosch. Et c'est ce qui permet de tourner l'écran, mais c'est ce qui permet à l'accéléromètre de comprendre que vous êtes en train de faire des pas. Donc, quand vous avez une application sur la santé, en fait, c'est basé sur l'accéléromètre. Et cette famille de MEMS, vous avez le lacet, qui est un MEMS qui se trouve dans les ESP, donc dans l'automobile, et qui permet de comprendre la trajectoire de la voiture et aussi la perte de stabilité du véhicule. Et donc les MEMS, on les trouve dans l'automobile, qui est un métier important de Bosch, à la base du groupe. C'est encore 2/3 du chiffre d'affaires aujourd'hui du groupe. Et puis aussi sur d'autres activités qui sont plus dans tout ce qui est consumer.
Alors aujourd'hui, on peut dire que chacun a sa version de la voiture connectée. Quelle est la vision de Bosch aujourd'hui sur la voiture connectée? On va essayer de dérouler un peu.
Alors, la voiture connectée, d'abord, elle est connectée à Internet. Et comment ça se passe? D'abord, les constructeurs automobiles ont intégré des cartes SIM les véhicules au niveau du multimédia. Première solution, alors en général, ce sont des solutions qui demandent un abonnement, donc qui sont assez onéreuses. Donc les clients n'ont pas vraiment répondu à cet appel. Par contre, ce qu'on voit maintenant, c'est l'utilisation du smartphone pour la connectivité à Internet dans le véhicule. Nous, Bosch, nous avons un produit qui s'appelle MySpin pour My Smartphone Integration, qui utilise le smartphone en mettant une application sur ce smartphone, qui peut être Android, Windows Phone ou iOS. et qui permet d'utiliser, d'avoir sur l'écran du véhicule certaines applications. Jaguar Land Rover est notre premier client et sous le nom de InControl Apps propose cette solution. Bon, donc la connectivité Internet dans la voiture va passer par le smartphone avec différentes solutions. Beaucoup de constructeurs le proposent. Et puis aussi, il y a la prise OBD dans les voitures. C'est la prise du diagnostic qui est utilisée, par exemple, pour votre garagiste pour faire la révision. Cette prise OBD, on peut brancher un petit boîtier. Nous, Bosch, d'ailleurs, nous produisons un boîtier qui s'appelle DriveLog qui est universel, qui est indépendant et qui permet de transmettre des informations sur le véhicule vers le smartphone en Bluetooth et vers une application. Donc, par exemple, pour faire du diagnostic, pour informer le conducteur sur l'état de son véhicule.
Donc, aujourd'hui, ça va au-delà, la voiture connectée va au-delà de simples services connectés ?
Oui, mais même j'ai envie de vous dire qu'avant que la voiture soit connectée, c'est aussi le conducteur qui est connecté. Aujourd'hui, on a fait une étude avec le JIPA, qui est un institut. On a cofinancé cette étude. Au premier trimestre 2015, 65% des conducteurs français possèdent un smartphone, 66% utilisent une application de navigation. Donc même la connectivité Internet dans la voiture, elle se passe déjà par le smartphone. Et comme je vous l'ai expliqué, on va continuer à utiliser le smartphone avec des applications utilisées et intégrées sur le tableau de bord, sur l'écran du véhicule, ou avec la prise diagnostique, d'autres applications pour faire du service, différents services, par exemple sur le diagnostic, mais on peut imaginer aussi de l'assurance qui pourra être basée sur le comportement des conducteurs.
En allant plus loin, est-ce qu'on pourrait imaginer les voitures communiquer entre elles ?
Alors, oui, la semaine dernière, il y avait le salon de l'ITS à Bordeaux. Il a été beaucoup discuté de la connectivité Internet et aussi des communications entre les véhicules et l'infrastructure et les véhicules à véhicules. Alors, il y a deux technologies qui peuvent permettre la communication entre véhicules. Un, c'est un Wi-Fi, disons, automobile, qui s'appelle le G5 comme technologie. La seule problématique de cette technologie, c'est qu'il faut avoir des bornes, des répétiteurs en milieu urbain tous les 300 mètres et puis sur en milieu rural plutôt jusqu'à 800 mètres. Donc cette infrastructure n'existe pas. Et puis l'autre technologie qui va arriver, c'est la 5G avec le GSM. La 5G va permettre non seulement d'avoir des communications entre votre carte SIM et puis un relais, mais aussi entre deux cartes SIM. Donc c'est ce qu'on appelle du peer-to-peer, donc de carte SIM à carte SIM en direct. Ça, c'est au niveau technologique ce qui va être possible. Alors, toutefois, il y a peut-être un bémol, parce que si on pense à la sécurité des véhicules, imaginons que quelqu'un ait une intention malveillante et envoie un message, vous avez un véhicule qui est devant et dit « il y a un accident à tel endroit ». Et tous les véhicules derrière pourraient se mettre à freiner, à ralentir, à perturber le trafic. Il y a des problématiques de sécurité, des problématiques d'authentification, de validation des messages entre véhicules. Peut-être que pour éviter ces écueils, on aura plutôt une communication entre les véhicules et l'infrastructure. Mais il y a quand même un avantage stratégique d'avoir une communication entre véhicules, c'est la vitesse. Si vous communiquez entre deux véhicules, vous êtes capable d'informer très rapidement s'il y a un accident, s'il y a un événement impromptu sur la voie, ou si par exemple il y a une plaque de verglas en hiver et qui peut entraîner un danger pour les véhicules. Donc, à la fois, il y a un bénéfice qui est entrevu dans la communication entre véhicules. D'un autre côté, il y a la problématique de la sécurité des informations échangées entre véhicules.
J'imagine, surtout à l'heure de la ville intelligente, on n'en a jamais parlé autant. On pourrait imaginer toute forme de service émané.
Alors, des services, oui, par exemple, on peut imaginer au niveau du parking, surtout en voie publique, des échanges entre les véhicules. Mais il y a aussi d'autres solutions qui peuvent être imaginées. Sur les véhicules, de plus en plus, il va y avoir des capteurs, en particulier des caméras ou des radars, pour comprendre l'environnement des véhicules, pour être capable de faire du freinage d'urgence, du régulateur de vitesse intelligent. Et ces caméras sont capables de détecter aussi des places vacantes sur la chaussée. Donc sans que le conducteur ait besoin de rien faire, on peut imaginer dans l'avenir que on a cette information captée par la caméra, il y a un espace libre, c'est géolocalisé, on sait où se trouve cette place vacante et on envoie dans l'infrastructure, dans le cloud, des serveurs, cette information vers un tiers de confiance. La problématique, ça va être d'agréger ces informations, de les valider et de les renvoyer vers des véhicules ou vers des systèmes de communication. Donc là, pareil, problématique de sécurité. Beaucoup de possibilités sont devant nous, mais à la fois de ces possibilités, il y a le corollaire qui est la sécurité et l'authentification des données.
Franck Cazenave, merci. Je rappelle, vous êtes directeur marketing et innovation chez Bosch France et vous avez également publié un ouvrage Stop Google aux éditions Pearson, dont on parlera dans une prochaine émission. Merci beaucoup.
Merci Lila. On revient dans un instant. Notre passion selon Sanette. On va parler de nourriture. À tout de suite.